Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Theresa May à Bruxelles aujourd'hui pour défendre son projet d'accord sur le Brexit. Les arguments de la première ministre britannique ne semblent pas avoir convaincu les dirigeants européens. Nous ferons le point avec Quentin Dickinson dans un instant. En France, la justice ouvre une enquête pour violences et menaces après les pressions physiques de Jean-Luc Mélenchon contre des policiers et des magistrats. Le chef des Insoumis est-il allé trop loin? Nous poserons la question à notre invité, le politologue Olivier Roucan. Force ouvrière perd son chef, Pascal Pavageot a démissionné aujourd'hui, emporté par le scandale du fichage interne des dirigeants du syndicat. Les précisions de Catherine Pétillon. En 2040, l'Espagne sera la championne du monde de l'espérance de vie avec presque 86 ans en moyenne selon une étude américaine. Le système de santé espagnol est particulièrement performant, nous expliquera Mathieu de Taillac. Y aura-t-il un accord sur le Brexit avant Noël? La question est posée ce soir alors que les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles. Un sommet qui a débuté par l'audition de Theresa May. Le temps est venu pour un accord, a dit la première ministre britannique en arrivant dans la capitale belge. Reste à savoir si elle a réussi à convaincre les 27 chefs d'État et de gouvernement. Nous sommes en direct de Bruxelles avec Quentin Dickinson. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
Quentin, selon le président du Parlement européen, Antonio Tajani, Theresa May n'a pas présenté de nouveautés majeures ce soir. Est-ce à dire que la situation est bloquée ?
En fait, Stanislas, à l'heure qu'il est, on ne peut parler ni de blocage, ni d'avancée. C'est-à-dire que la situation ambiguë que l'on connaît depuis 847 jours maintenant demeure inchangée. Theresa May est venue, elle a présenté une dernière fois la position de son gouvernement, sans qu'il y ait eu surprise ni échange avec ses homologues, et elle s'en est allée, laissant libre cours aux membres d'un Conseil européen limité à 27, augmenté, comme c'est l'habitude, de la présence du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le tout sous la présidence de Donald Tusk. Et Michel Barnier comparaît en indispensable invité. La question ce soir, c'est de savoir si l'Union européenne accepte la requête britannique d'un prolongement de la période de transition, laquelle ne figure dans aucun texte et qui constituait déjà une concession de la part des 27. Pour être clair, cette période doit courir du 30 mars 2019, lendemain du Brexit, jusqu'au 31 décembre 2020, fin de l'exercice budgétaire septennal auquel, de toute façon, Londres est contraint de contribuer. Ce qui est désormais demandé, c'est le prolongement d'un an de cette transition. En principe, les Européens n'y seraient pas opposés, mais ils s'interrogent sur la capacité de Mme May à faire accepter par son parti la prolongation de cette période, déjà dénoncée par ses Brexiteurs comme une mise sous tutelle du Royaume-Uni, état vassal de l'UE, selon leur expression du moment.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles, merci. L'Europe qui doit aussi composer avec la coalition populiste au pouvoir en Italie. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a prévenu aujourd'hui la commission de Bruxelles qu'il n'existait pas de marge pour modifier le budget 2019 de son pays. Un budget qui prévoit un déficit public de 2,4% du PIB, soit trois fois plus que les prévisions budgétaires du précédent gouvernement italien de centre-gauche. Ce budget 2019 de l'Italie doit maintenant être validé par la Commission européenne. Une tuerie de masse en Crimée a fait aujourd'hui au moins 19 morts. Un lycéen de 18 ans a ouvert le feu sur ses camarades dans un établissement technique de Kertch. Il s'est ensuite suicidé. Ce soir, les autorités russes de la péninsule ukrainienne annexée excluent la piste terroriste. Jean-Luc Mélenchon n'en a pas fini avec la justice. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête pour violences et menaces contre des policiers et des magistrats. Hier, le leader de la France insoumise avait rudoyé des fonctionnaires venus perquisitionner chez lui, ainsi qu'au siège de son parti. Perquisition relative à deux dossiers, les soupçons d'emploi fictifs en lien avec des députés européens mélenchonistes et les anomalies dans les comptes de campagne de l'ex-candidat à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon avait donné hier une publicité maximale à ces perquisitions pour dénoncer une justice prétendument aux ordres. Laurent Doulsan, le parquet de Paris n'a pas vraiment l'intention d'en rester là.
Menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est pour ces motifs que le parquet de Paris a ouvert une enquête après les incidents d'hier au siège de la France insoumise, des faits passibles en théorie de 3 ans de prison. L'enquête a été confiée aux policiers de la BRDP, la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Elle ne vise personne en particulier, mais doit analyser les faits et déterminer les responsabilités de chacun. Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière étaient notamment présents quand la perquisition chez les Insoumis a dégénéré.
Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte!
Sur les images tournées pendant l'incident, on voit Jean-Luc Mélenchon pousser le procureur avant qu'un policier ne s'interpose. Dans une autre séquence, quand les militants de la France Insoumise ont réussi à pénétrer dans leurs locaux, une brève bagarre éclate et un policier est jeté à terre. À ce stade de l'affaire, le parquet de Paris s'est auto-saisi pour enquêter. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée.
Laurent Doulsan, merci. Invité de ce journal, le politologue Olivier Roucan. Bonsoir.
Bonsoir.
Olivier Roucan, est-ce que Mélenchon n'est pas allé trop loin en prenant à partie physiquement des magistrats et des policiers?
Disons qu'il prend un risque, en effet, celui d'apparaître comme un personnage qui peut aller jusqu'au coup de poing, donc un personnage excessif, voire violent, lorsque de besoin. Bon, ce qui renforce le côté agressif de son image, et ça lui a déjà coûté. Sur le plan juridique, il est clair que, par exemple, la perquisition qui était organisée hier est tout à fait possible, et en rien contradictoire avec le statut de parlementaire et l'immunité qui va avec de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a sur le plan juridique, si vous voulez, il est en tort, et sur le plan politique, il prend un risque.
Est-ce que c'est un risque calculé selon vous ?
Oui, évidemment, c'est un risque calculé parce que, a joué les boucs émissaires et il reprend un registre, j'ai dit quel son camp est assez sensible, c'est celui du parlementaire dans la tradition révolutionnaire qui se dresse contre les abus de pouvoir du pouvoir exécutif en l'occurrence. Et donc ça, c'est dans la mythologie révolutionnaire, dans la tradition rousseauiste, le souverain parlementaire qui représente la loi, c'est... Encore une fois, c'est un registre qui permet de mobiliser son camp. Et on l'a vu hier, notamment, au moins tous les parlementaires étaient très unis de la France Insoumise derrière Jean-Luc Mélenchon.
Et en l'occurrence, le souverain, c'est Emmanuel Macron.
Oui, disons que le chef de l'État, en effet, est indirectement, voire directement visé, puisque Jean-Luc Mélenchon est allé jusqu'à comparer l'immunité du parlementaire et celle du chef de l'État. D'ailleurs, le régime juridique n'est pas tout à fait le même. Voilà, donc c'est un face-à-face auquel tient Jean-Luc Mélenchon depuis la présidentielle et qu'il veut tenir pendant ces 5 ans. En l'occurrence, le rôle de, encore une fois, du bouc émissaire, de la victime, lui permet d'en appeler à la solidarité. Donc c'est assez mobilisateur à un moment où Emmanuel Macron, lui, peine à fédérer et à garder un lien de proximité avec les Français.
D'autant plus que Jean-Luc Mélenchon a un certain talent pour médiatiser ce genre d'événement.
Oui, alors là, on pourrait presque dire qu'il utilise les instruments du nouveau monde avec une certaine réussite. Hein. Hier, Facebook, il se filme lui-même. Et pour des raisons qui tiennent plus parfois à ce qu'on appelle l'ancien monde, puisqu'en l'occurrence, là, il s'agit d'affaires judiciaires qui rattrapent le financement de son parti politique. Donc oui, il y a une certaine habileté là, pour le coup.
Olivier Roucan, c'est une forme de populisme, la façon dont Jean-Luc Mélenchon critique la justice de son pays?
Disons que ça peut faire partie de la boîte à outils des populistes. Alors dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, il faut se rappeler qu'en France, il y a toujours un doute relatif à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et du reste que nous sommes aussi remarqués au niveau européen, international, pour les nominations des magistrats du parquet qui sont jugés insuffisamment autonomes. Donc on peut s'en servir d'une façon populiste, mais il y a quand même en France un problème de fond quant à l'indépendance de certains magistrats.
Alors il y a tout de même un risque de contradiction, puisque Jean-Luc Mélenchon n'a pas été le dernier à défendre la justice face aux critiques de François Fillon ou Marine Le Pen.
Oui, c'est ça. Ça peut apparaître un peu comme étant contradictoire, puisque à la fois la France insoumise semble attachée à justement à cette indépendance des magistrats. Ils sont pour des réformes qui visent à consolider cette indépendance, et en même temps, là, ils s'en plaignent. C'est aussi dans la pensée de Jean-Luc Mélenchon l'idée que le parlementaire dispose d'une légitimité, celle du peuple, qu'il sait sait que de toutes les façons, il est quelque part supérieur à la police judiciaire et à la justice. Donc c'est insister véritablement ici sur la légitimité du peuple et du suffrage universel, qui est un axe structurant de l'idéologie de Jean-Luc Mélenchon.
Olivier Roucan, dans cette affaire, Mélenchon a reçu le soutien de Marine Le Pen, qui elle aussi doit s'expliquer sur des emplois présumés fictifs autour des députés européens de son parti. C'est un soutien un peu encombrant pour la France insoumise.
C'est encombrant et puis c'est paradoxal, puisque une partie des ennuis judiciaires de la France insoumise vient d'une dénonciation d'une députée européenne du Rassemblement National. Donc véritablement, là, nous sommes dans la comédie dramatique, j'allais presque dire, et dans une accumulation de non-sens et de contradictions. Bon, il est clair que la configuration du paysage politique telle qu'elle s'est mise en place après 2017 conduit parfois à ce genre d'alliance tacite contradictoire.
Olivier Roucan, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Il sera resté à peine 6 mois à la tête de Force Ouvrière. Pascal Pavageot a démissionné aujourd'hui, emporté par le scandale des fichiers internes au syndicat révélés par le Canard Enchaîné. Des fichiers particulièrement insultants pour plusieurs dirigeants de FO. Ces mêmes dirigeants qui ont joué un rôle décisif dans le départ de Pascal Pavageot. Une affaire qui plonge le syndicat dans une vraie crise de succession, Catherine Pétillon.
D'abord, qui pour succéder au secrétaire général démissionnaire? Autant dire que l'affaire ne s'annonce pas simple car aucun nom ne s'impose naturellement. Et si en interne, la mobilisation pour le départ de Pascal Pavageot a vu naître une étonnante alliance de circonstances entre trotskistes et réformistes, cela pourrait se corser au moment de trouver un candidat qui les rassemble, sans compter l'opposition probable des fidèles de Pavageot. Quoi qu'il en soit, le ou la future secrétaire générale ne bénéficiera pas de la légitimité que confère une élection en congrès. L'autre question, c'est quel avenir pour la ligne défendue par Pascal Pavageot, en rupture avec celle plus réformiste de son prédécesseur Jean-Claude Mailly. Elle se voulait combative, utilisant grève, manifestations et alliances avec les autres organisations syndicales. Pas question de remettre en cause les orientations du Congrès, réaffirmé hier la direction élargie de FO, ce qui n'empêche pas les inquiétudes en interne. En tout cas, les réformistes pourraient se saisir de l'occasion pour relancer le débat. Enfin, quel sera le prix payé par FO? Si le syndicat dénonce une campagne sur le thème du tous pourri, reste que ce scandale du fichier pourrait laisser des traces, ne serait-ce qu'aux prochaines élections professionnelles dans la fonction publique début décembre. La crise ouverte à FO risque de lui faire perdre des voix, voire sa place de première organisation dans la fonction publique d'État. Plus généralement, cela pourrait aussi amoindrir sa capacité à mobiliser alors que l'agenda social est très rempli et que les syndicats entament le bras de fer avec l'exécutif sur l'assurance chômage et les retraites.
Catherine Pétillon, merci. Le successeur de Pascal Pavageot pourrait être choisi les 21 et 22 novembre prochains. D'ici une vingtaine d'années, le Japon ne sera plus le champion du monde de l'espérance de vie. Si l'on en croit une étude de l'université de Washington, publiée par la revue The Lancet, l'Espagne pourrait lui ravir ce titre. Selon cette étude, en 2040, les Espagnols auront une espérance de vie de 85,8 ans contre 83 aujourd'hui. Alors comment expliquer une telle longévité chez nos voisins? Élément de réponse avec ce reportage à Madrid de Mathieu Le Taillac.
En termes de niveau de richesse, de pratique du sport ou d'alimentation, l'Espagne n'est pas très différente de ses voisins européens. Mais parmi les facteurs à prendre en compte, il y a aussi le système de santé qui expliquerait pour plus d'un tiers l'espérance de vie. Le docteur Juan Deliano est spécialiste en santé publique et directeur de la fondation Gaspar Casal.
L'Espagne a une bonne chose, c'est son système de santé public. Il permet l'accès aux soins sans avoir à payer au moment de son utilisation. Même si, bien sûr, on paie par le biais de nos impôts sur le revenu.
Toutes les consultations des généralistes et de la plupart des spécialistes sont gratuites en Espagne. Un obstacle de moins, cela évite de retarder l'accès aux soins. Il y a enfin des raisons naturelles d'être en bonne santé en Espagne.
Le climat, par exemple, les heures de soleil. L'organisme réagit différemment et fait que l'on sécrète des endorphines. Et le bonheur est une autre variable qui influe de manière décisive sur l'espérance de vie.
300 jours de soleil par an promettent les promoteurs touristiques sur les plages espagnoles. Le voyage n'est pas encore remboursé par la Sécu.
Mathieu de Taillac, correspondant en Espagne. Le temps demain sera pluvieux sur une partie de la moitié sud, de l'Aquitaine à l'Occitanie. Les pluies seront abondantes sur le Roussillon. Des nuages également de la Bretagne à la frontière belge avant le retour des éclaircies dans l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil s'imposera dès le matin. Les températures minimales de 7 à 16 degrés le matin du nord au sud. Les maximales, toujours supérieures aux normales saisonnières, iront de 18 à 24 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto. We'll be right back.